Super. Antoine Nouavi, bonjour. Merci bonjour. D'être avec nous une nouvelle fois sur les ondes de Radio Maria avec Saint-Augustin, le plus commenté parmi les pères,
oui.
Le grand Saint-Augustin.
Et c'est un plaisir pour moi de retrouver tous les auditeurs après quelques semaines, quelques jours très difficiles pour moi. Il fait beau aujourd'hui au Sable d'Olonne. Je suis le père Antoine Nouavi et je salue tous nos auditeurs, les malades dans les hôpitaux, ceux qui sont sur la route. Et je salue particulièrement des pèlerins de ma paroisse qui sont en route vers Lourdes pour prier la Vierge Marie. Alors, parler de l'Église n'est pas une affaire simple et beaucoup voient l'Église comme une institution. Je voudrais proposer qu'on la voit comme le prolongement de la mission du Christ dans la continuité de l'Assemblée d'Israël. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas voir l'Église comme une institution. D'ailleurs, le projet de cette émission, c'est de découvrir le mystère de l'Église avec l'institution et au-delà de l'institution. Alors, nous poursuivons la découverte de ce qu'est l'Église au début de l'histoire du christianisme. L'objectif est de faire découvrir ce qu'est l'Église au fondement, mais surtout dans des situations particulières d'un lieu, d'un temps, au temps de la fondation, comment les chrétiens ont vécu ce lien particulier avec le Christ à travers ce corps qu'est l'Église. Le passage le mois dernier par Saint-Cyprien a été un moment, j'espère, riche de découvertes pour vous, chers auditeurs. La pensée de Cyprien de Carthage est très organique. L'unité que Saint-Cyprien de Carthage prêche n'est pas circonstancielle. Toute son œuvre et sa pensée sont structurées par l'union de l'Église avec le Christ lui-même. La fonction et la personne de l'évêque sont les principes et le symbole de cette unité. Alors, nous allons faire un pas de plus et aller voir un autre père de l'Église, Saint-Augustin, qui est un Africain, dont je suis très heureux de parler d'un compatriote. Et nous allons passer le temps avec Augustin d'Hippone, le théologien allemand Hans Urs von Balthasar, a présenté un recueil de ses écrits sur l'Église dans la collection Unam Sanctam qui est parue au CERF avec le titre « Le visage de l'Église ». Dans la Cité de Dieu, nous avons aussi un enseignement d'Augustin sur l'Église. Nous avons aussi une prise de position vigoureuse sur l'Église lors de la crise des donatistes. Nous retrouverons alors quelques formules très proches de celles de Saint-Cyprien. Il y a donc de quoi rester avec Saint-Augustin durant des mois, même des années, mais nous serons très synthétiques sur la question. Nous ne consacrerons que deux émissions à Saint-Augustin. Alors, qui est-il donc ce grand saint ? Augustin, son vrai nom, c'est Aurelius Augustinus, qui est né le 13 novembre en 354 à Tagaste, l'actuel souk en Algérie, une municipalité de la province d'Afrique, et qui est mort le 28 août 430 à Hippone, l'actuel Annaba en Algérie. C'est un philosophe, un rhéteur, un théologien. Avec Ambroise de Milan, Jérôme de Stridon et Grégoire le Grand, il est l'un des quatre pères de l'Église occidentale et l'un des 36 docteurs de l'Église. La formation qu'il reçoit à Carthage est celle des lettrés romains, aimant les belles lettres. Il était un rhéteur, c'était un passionné de tout. Sa passion va l'entraîner dans le mauvais chemin comme dans le bon chemin, où il va découvrir le Christ. Cela veut dire que pour nous, pour vous qui m'écoutez, un jour, le Christ, quand il nous vient nous chercher, il nous prend, il nous transforme. Alors, laissez vos portes ouvertes au Christ, laissez vos cœurs ouverts au Christ. Le pape Benoît XVI dit ces quelques mots qui le présentent bien. Après son baptême, Augustin décida de revenir en Afrique avec ses amis, avec l'idée de pratiquer une vie commune de type monastique au service de Dieu. Mais à Ostie, dans l'attente du départ, sa mère tomba brusquement malade et mourut un peu plus tard, déchirant le cœur de son fils. Finalement, de retour dans sa patrie, le converti s'établit à Hippone puis fonder précisément un monastère dans cette ville de la côte africaine. Malgré la présence d'hérésie, il fut ordonné prêtre en 391 et commença avec plusieurs compagnons la vie monastique à laquelle il pensait depuis longtemps, partageant son temps entre la prière, l'étude et la prédication. Il voulait uniquement être au service de la vérité. Il ne se sentait pas appelé à la vie pastorale, mais il comprit ensuite que l'appel de Dieu était celui d'être un pasteur parmi les autres, en offrant ainsi le don de la vérité aux autres, c'est-à-dire c'est à Hippone, 4 ans plus tard, en 395, qu'il fut consacré évêque. Continuant à approfondir l'étude des Écritures et des textes de la tradition chrétienne, Augustin fut un évêque exemplaire dans son engagement pastoral. Inlassable, il prêchait plusieurs fois par semaine à ses fidèles, il assistait les pauvres et les orphelins, il soignait la formation du clergé et l'organisation de monastères féminins et masculins. De la prédication de saint Augustin, nous tirerons beaucoup d'enseignements sur notre mère Église. D'abord, chez saint Augustin, il y a cette idée que j'aime beaucoup, l'idée du Christ total, qui est une idée force de la pensée d'Augustin, que lui-même tire de saint Paul, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul, ainsi en est-il du Christ dans 1 Corinthiens 12, verset 12. Augustin, en effet, est très paulinien. Cette idée du Christ total, Augustin l'utilise pour suggérer l'unité de l'Église avec le Christ, comme pour dire qu'il manquerait quelque chose au Christ sans l'Église qu'il a lui-même instituée. Cette pensée est illustrative d'un des traits de personnalité d'Augustin. C'est un théologien sentimental. Sa théologie est faite avec passion et cela ne cache pas le sentimental qu'il est lui-même. En cela, Augustin est aussi un joannique, très lié passionnément à la personne du Christ, comme Jean l'était par amour. Chez saint Augustin, sans hésiter, il faut que vous tous qui m'écoutiez, vous lisiez les Confessions d'Augustin. On peut le lire comme un roman. Il existe en plusieurs éditions, dont même des éditions de poche. Je recommande vivement ce livre. Les autres livres sont peut-être difficiles, mais notre travail ici est de les lire et d'en rendre compte à nos auditeurs qui se contentent donc de lire les Confessions de saint Augustin. Nous avons beaucoup de choses à découvrir chez saint Augustin. Cyprien a donné sa pensée sur l'Église dans une situation de crise. Il en sera de même chez Augustin, mais chez Augustin, nous serons amenés à découvrir aussi sa pensée sur l'Église au gré des prédications. Comme le décrit Hans Urs von Balthasar, la prédication d'Augustin est le plus souvent aussi vivante que systématique. Il est rare qu'un thème soit suivi jusqu'au bout sans les digressions les plus inattendues et même parfois, il est même à peine exposé. Des cris dans l'assistance, des mouvements dans le peuple animent l'image et se reflètent dans les paroles de l'évêque. Le style, au contraire, des œuvres écrites soigneusement est négligé. Il n'est pas rare qu'il y ait quelque chose d'une sauvage exubérance, aussi prégnant et abrupt dans les formules que lent dans la construction. C'est là le pathos d'Augustin, absolument unique, pénétrant, se plaignant à voix basse, plein d'une douce résonance, plein de jeux de mots, d'assonance et de rythme, s'exprimant souvent plus par une antithèse ou un rythme que par les mots eux-mêmes. C'est dire que Augustin, qu'avec Augustin, nous avons certainement changé de niveau, mais ce qui est absolument intéressant, c'est la prédication d'Augustin. Cette prédication est le reflet de son être et une photographie du peuple auquel il appartient. Alors, j'ai essayé de sélectionner des thèmes que nous n'avons pas abordés avec Saint-Cyprien, mais j'ai aussi sélectionné des thèmes déjà vus avec Cyprien en montrant comment Augustin les aborde. On verra donc les rapports nouveaux, les points d'accord et les dépassements qu'opère Augustin par rapport à la pensée de Cyprien. Le premier thème que j'ai choisi, j'aurais pu en choisir un autre, a été guidé par l'actualité. Nous avons utilisé ici une expression qui a marqué quelquefois nos auditeurs. J'ai parlé quelquefois de l'Église comme un grand corps malade. C'est un peu dur et audacieux de ma part. Mais sans le savoir vraiment, nous avons en fait utilisé une image augustinienne. Dans le sermon 137, Augustin parle de l'Église dans des termes qui ramènent à notre expression. Pour le percevoir, il se suffit de lui donner la parole. Votre foi n'ignore pas mes bien-aimés, et nous savons que vous l'avez appris selon les instructions du Maître du ciel, en qui vous avez placé votre espérance, que notre Seigneur Jésus-Christ, qui déjà a souffert et qui est déjà ressuscité, est la tête de l'Église et que l'Église est son corps. Et que la santé de ce corps, c'est l'unité des membres et le lien de l'amour. Quiconque se refroidit en amour est malade dans le corps du Christ, mais il est assez puissant pour guérir même ses membres malades, celui qui a déjà relevé notre tête du moment qu'ils ne sont pas coupés par une trop grande impiété et qu'ils restent dans le corps jusqu'à leur guérison. Tout ce qui reste encore attaché au corps, garde l'espoir de la santé, mais ce qui a été coupé ne peut être, ni être soigné, ni être guéri. Comme c'est lui qui est la tête de l'Église et que l'Église est son corps, le Christ entier est à la fois tête et corps. Or, il est déjà ressuscité. Nous avons donc la tête dans le ciel. Notre tête intercède pour nous. Il y a donc de l'espoir pour ce grand corps malade. Je ne sais pas, mais en biologie, il est difficile que ce corps survive. Augustin manie deux images bibliques. Ici, l'image paulinienne du corps, comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Il utilise aussi l'image johannique de la vigne et des sarments. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous sommes là dans l'Évangile selon Saint Jean, le chapitre 15, versets 4 à 5. La combinaison de ces deux images fait penser que l'Église est humaine, donc forcément cabossée et quelquefois scandaleuse, mais elle est sauvée à condition de coller d'autant plus fermement qu'elle est cabossée à sa tête qui transfigure son corps et son être. Recentrons-nous sur les membres de ce corps mystique. Quel lien entre les membres de ce corps? Je suis un peu scandalisé qu'un membre entraîne tous les autres dans la pourriture. Que dit Augustin dans ce sens? Parle-t-il de la correction interfraternelle? Dans mes lectures, un paragraphe du sermon 19 répond à notre inquiétude et montre en même temps la radicalité des mesures de l'évêque d'Hippone, comme on le verra dans la crise avec le montanisme. Augustin dit: Ainsi, tu vois dans l'Église un homme qui n'a reçu que peu de dons, mais qui a cependant la charité. Un autre, au contraire, qui a dans l'Église un rang élevé à cause de ses dons plus grands, mais qui n'a pas la charité. L'un serait le petit doigt, l'autre l'œil, mais celui qui garde la santé est davantage attaché à l'ensemble du corps. Enfin, tout ce qui souffre dans le corps est une peine pour tout le corps. Et tous les membres s'occupent à soigner celui qui est malade, et le plus souvent, il guérit. Mais s'il n'est pas guéri et qu'il engendre une pourriture qui ne peut pas être guérie, alors il vaut mieux pour tous les membres qu'on l'ampute de l'ensemble du corps. Fin de citation. Augustin n'est donc pas naïf. Il sait, en tant qu'évêque, qu'il faut nourrir le peuple et prêcher la charité interfraternelle. Mais l'évêque qui prêche et qui construit une communauté charitable et fraternelle doit être le même qui érige des règles de discipline et de sanctions. C'est une erreur de croire qu'on peut construire une église sans discipline et sans sanctions. Souvent, dans des situations de crise, les règles constituent des garde-fous qui maintiennent sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. Augustin montre dans son enseignement que l'Église est sainte par sa tête et quelquefois pécheresse dans les membres de son corps. Pour le corps cabossé de l'Église, le salut réside dans son attachement à Jésus. Alors, pour cette émission, il est incontournable de voir comment Augustin voit et définit l'Église dans la Christ donatiste. En cela, la Christ donatiste a permis à Augustin de mieux affirmer sa pensée sur l'Église. Alors, vous vous demandez certainement, qu'est-ce que le donatisme? Le donatisme est un schisme, c'est-à-dire une séparation de l'Église officielle. Mais ce n'est pas le premier élément de la crise. Le mouvement donatiste va commencer en 312 à Carthage. Que nos auditeurs se souviennent, les persécutions soumettent à rude épreuve les chrétiens. Celle de Dioclétien 295-299 est appelée la grande persécution, avec ses massacres contre les chrétiens qui refusaient de sacrifier aux dieux romains. Évidemment, il y eut dans l'Église des fidèles et des infidèles qui ont sacrifié aux dieux romains. À Carthage, en 312, lors de la succession de l'évêque Manzirus, la nomination de Sicilianus fut contestée, puisqu'il avait été ordonné prêtre par Manzirus, évêque traditor et félice d'Abutini. Son ordination n'était pas valable, donc il ne pouvait pas être évêque. Entraîné par l'évêque Donat, 70 évêques de Numidie élurent contre lui un évêque concurrent, Majorinus. Malgré l'obstination de Donat, le concile de Latran confirma la validité de cette ordination par l'argumentation suivante. Si le Christ est présent dans tous les sacrements, un sacrement est effectif, quels que soient les antécédents du prêtre qui le délivre. En Numidie, les donatistes devinrent majoritaires, ils lèvent une armée, ils arrivent par leur force à affamer les catholiques en empêchant les boulangers de les servir. Augustin a été très inventif pour neutraliser l'influence doctrinale et culturelle du donatisme. Il essaye tout, la chanson, la publicité, la controverse, la force. En 403, il va lancer l'idée d'une conférence contradictoire où les deux épiscopats réunis discuteraient de leurs divisions et s'efforceraient de les surmonter. L'idée ne rencontra d'abord que le dédain des donatistes. Leur évêque de Carthage fit savoir qu'il serait honteux pour les fils de martyrs, les donatistes, de s'assembler avec la race des traditeurs, les catholiques. On brandit contre nous des lettres impériales. Nous n'avons que l'évangile. Fin de citation. Finalement, le projet de la conférence a eu lieu après quelques péripéties. en mai-juin 411. Elle va consacrer la victoire d'Augustin, évidemment, qui est un orateur hors pair et un grand théologien. Donc, Augustin va gagner ce débat. Les donatistes prétendaient être l'Église des saints, même cantonnée en Afrique, où seule elle avait sa hiérarchie. Elle était la vraie, la seule Église. Les catholiques, au contraire, formaient une Église de traîtres, détachée de ses origines. Augustin va résumer cette argumentation en ces mots sarcastiques: le monde entier pue, seule l'Afrique sent bon. Alors, nous allons approfondir l'argumentation qu'Augustin a développée dans ce débat. Alors, pour plus de clarté pour nos auditeurs, rappelons le contexte de cette crise donatiste. À Carthage, en 312, lors de la succession de l'évêque Manzirius, la nomination de Cecilianus fut contestée, puisqu'il avait été ordonné prêtre par Manzirius, évêque traditor, et Félix d'Abutin. Son ordination n'était donc pas valable, parce qu'il ne pouvait être évêque. Entraîné par l'évêque Donat, 70 évêques de Numidie élurent contre lui un évêque concurrent. Malgré l'obstination de Donat, le Concile de Latran confirma la validité de cette ordination par l'argumentation suivante: si le Christ est présent dans tous les sacrements, un sacrement est effectif, quels que soient les antécédents du prêtre qui le délivre. Le donatisme est un courant obstiné malgré le Concile de Latran. Alors, Augustin va enseigner sur le corps et l'universalité de l'Église. Je cite saint Augustin dans un de ses sermons. Les donatistes étaient autrefois dans l'unité. Ils en ont été séparés. De quoi furent-ils séparés? De l'unité. Mais ils disent: c'est vous qui vous êtes séparés. Que faisons-nous? Moi, je dis: c'est vous qui vous en êtes séparés. Vous dites: c'est vous qui vous êtes séparés. Que Dieu en juge. Je consulte l'Écriture et je vois de quoi quelqu'un est séparé. Si l'Église porte témoignage en faveur du parti de Donat, en faveur d'une Église établie en une région déterminée du monde, comme le parti de Donat l'est en Afrique, ils peuvent dire que nous sommes séparés de l'unité et qu'ils sont au contraire enracinés. Mais si l'Écriture ne témoigne qu'en faveur de l'Église répandue dans le monde entier, pourquoi chercher un homme pour dirimer notre querelle? Nous avons Dieu. Il ne préside certes pas encore au jugement, mais il juge déjà par l'Évangile. Fin de citation. On voit l'habileté intellectuelle, la finesse d'Augustin. Augustin se moque un peu du donatisme, comme si tout seul il avait raison contre l'ensemble de l'Église universelle. Pour Augustin, l'Église est catholique, c'est-à-dire universelle, parce que la volonté du Christ est que l'Évangile soit annoncé à toutes les nations. Cette catholicité embrasse l'espace et le temps. L'espace, dans l'espace, l'Église est coextensive à l'univers. Dans le temps, elle se rattache aux sources même du christianisme qui sont à Jérusalem. L'universalité s'est manifestée à la première Pentecôte par le don des langues. Dans l'Église, cette universalité des langues est un signe des temps. Augustin suggère une certaine outrecuidance du donatisme d'avoir raison tout seul contre l'universalité de l'Église. Je voudrais à ce propos donner un exemple. Récemment, le président de la Conférence des évêques de France a été convoqué par le ministre de l'Intérieur et des Cultes à venir s'expliquer sur le secret de la confession. Certains ont donc pensé qu'on était sur le point de revenir sur le secret de la confession en France. Je voudrais simplement rappeler que l'Église n'est pas gallicane, elle est universelle. On peut remarquer à ce propos la finesse de l'argumentation d'Augustin. Tous les partis en présence se réclament de Dieu et de son jugement. Le jugement de Dieu, certes, il viendra à la fin des temps, mais Augustin suggère que le jugement de Dieu se trouve déjà exprimé dans les évangiles. Je cite un extrait du sermon 268 dans le grand volume Patrologie latine, le numéro 33. Le Seigneur lui-même recommande aux apôtres l'unité de l'Église. Il se montra à eux. Eux crurent voir un esprit. Il prit peur et il les réconforta. Il leur dit, pourquoi tout ce trouble et ces doutes qui montent en vos cœurs? Voyez mes mains, palpez et voyez qu'un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Et comme dans leur joie, ils demeuraient tous ébahis, ils prirent de la nourriture, non parce qu'ils en auraient eu besoin, mais pour leur montrer sa puissance. En la prenant devant eux, il recommande à l'encontre des impies la réalité de son corps et l'unité de l'Église. Fin de citation. Le jugement pour Augustin est certes à venir, mais le jugement est déjà présent dans les Écritures. Augustin recommande donc, comme de suivre l'Évangile à la lettre, on peut penser que pour Augustin, suivre le Christ dans l'Église est facile. Mais en vérité, ce que suggère véritablement Augustin, c'est de se reposer sur les Écritures et de les laisser nous conduire. Essayons de percevoir la finesse de l'argumentation d'Augustin. Ses phrases souvent sont longues, mais je crois qu'il faut les lire patiemment. Je recommande à mes étudiants que quand on lit un livre, il faut le lire crayon à la main. Et surtout quand vous lisez Augustin, il y a quelquefois des redondances, mais il faut le lire crayon à la main. Et en le lisant crayon à la main, on voit certaines formules qui reviennent sans cesse. Et à partir de ces formules, on peut dire que on a le cœur de sa pensée. Alors, écoutons Augustin. Le Seigneur a montré l'Église en d'innombrables endroits. Je n'en rappellerai que quelques-uns. Après la résurrection, vous le savez, frères, il se montra à ses disciples. Il leur fit voir les cicatrices de ses plaies. Il se donna à toucher et pas seulement à voir. Mais tout en le tenant, le touchant, le reconnaissant, ils hésitaient encore dans leur joie, comme l'Évangile nous l'apprend, à reconnaître à qui devait aller leur foi, à qui il était criminel de la refuser. À cet endroit, tu ne trouveras pas mes voies, mais moi, je m'y retrouve. Pourquoi entends-tu d'un homme le jugement de son tribunal? Écoute le Christ dans l'Évangile. Il dit à toutes les nations, à commencer par Jérusalem, y es-tu, toi, en communion avec toutes les nations, en communion avec cette Église répandue dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem? Faisons comme une petite étude de test. Saint Augustin dit, le Seigneur a montré l'Église en d'innombrables endroits. Doit-on comprendre par cette phrase et tout le développement qui suit que l'universalité de l'Église se justifie par la présence ou les apparitions du Christ? Je crois que c'est exactement ce que Augustin veut dire. En ressuscitant d'entre les morts, il s'est montré à plusieurs endroits. On le voit dans les endroits. Quelqu'un comme Saint Paul, qui n'a peut-être pas rencontré physiquement le Christ, de son vivant, a dit, avant tout, je vous ai transmis ceci que j'ai moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, et il fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux douze. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants et quelques-uns sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres et en tout dernier lieu, il est même apparu à l'avorton que je suis. Comment le Christ s'est-il fait voir à Paul? Nous n'en connaissons pas la description précise de, nous ne connaissons pas la description précise de cette apparition. Ce qui est sûr, Paul a rencontré le Christ ressuscité dans la foi. L'argumentation de saint Augustin est très intéressante ici. Elle montre que le principe de l'universalité de l'Église n'est pas fondée sur les particularités ou les particularismes culturels, les différences de langue, de rites et autres choses. Ce qui fonde l'universalité du Christ, c'est le Christ même se révélant aux nations, aux groupes et aux personnes. J'aime à dire souvent que ce qui nous éloigne du Christ dans nos communautés chrétiennes, c'est certainement notre culture ou bien la fierté culturelle que nous avons de nos cultures. Cela nous éloigne de ce Christ et du principe de l'universalité de l'Église. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'universalité est fondée sur l'unicité, donc la personne de Jésus le Christ. En le disant, je crois que nous avons atteint un point important de ce qu'il faut retenir de l'Église dans son identité et dans sa diversité. Il ne faut pas contester la diversité. Elle existe, certes, mais il y a une unité qui s'irradie dans les diversités. L'obstination du donatisme est restée jusqu'aux conquêtes arabes. Pourquoi a-t-elle disparu simplement? Parce que cette excroissance n'était pas dans la vérité et n'était pas nourrie à la source. C'est d'ailleurs ce que dit Augustin dans la suite de son sermon. C'est là l'Église à laquelle je tiens, à laquelle tu ne tiens pas. Si tu y es coupé, reconnais de quoi tu es séparé. Reviens, réintègre-la, de peur de devenir sec et d'être jeté au feu. Les prophètes parlent, les apôtres parlent, le Seigneur parle de l'Église répandue à travers le monde entier. C'est contre toi que tous ils prononcent la sentence. Les pères de l'Église ont fait leur travail de catéchèse, ils se sont battus contre les hérésies, les schismes et les autres adversités. Ils ont lutté pour la préservation de la foi chrétienne dans cette région de l'Afrique du Nord. La disparition de ce christianisme est due à l'invasion arabe. Elle correspond aussi à la chute de l'Empire de Rome. C'est la fin d'un monde par la force et la persécution. Mais on peut s'interroger quand même, pourquoi ce christianisme a-t-il donc disparu? On peut d'ailleurs relativiser cette disparition. Il y a d'ailleurs dans ces régions une présence de nos frères coptes et une minorité chrétienne. En s'interrogeant sur cette disparition, on peut peut-être émettre l'hypothèse que le christianisme de l'Afrique du Nord a disparu avec l'invasion arabe, mais elle a surtout disparu par la chute de l'Empire romain. Le christianisme n'est pas la romanité. Le christianisme, je crois, n'était pas assez inculturé dans la particularité culturelle de cette région. Ainsi, il a disparu comme une peinture extérieure sur un objet. La pensée d'Augustin fait du Christ ressuscité et révélé à la diversité des églises, le fondement de l'universalité, c'est dire que pour lui, en tout lieu et en tout temps, le Christ honoré est le même. Le travail d'évangélisation à faire par chaque communauté, c'est de faire en sorte que ce Christ soit incarné dans toute la culture locale à travers toutes ces manifestations. Au Sable, je me bats pour que le christianisme soit populaire, parce que aujourd'hui, si le christianisme disparaît de la culture locale, alors c'en est fini de nous. Alors, il faut que le christianisme réapparaisse au cœur de nos cultures, de la vie locale, de la cité. On voit nos processions, on voit que nous célébrons. C'est en faisant cela que nous collons à la culture qui est devenue l'agora moderne. L'évangélisation va donc de pair avec l'inculturation, qui n'est pas qu'un terme des églises du Sud. En France, par exemple, l'agora moderne, c'est encore certainement les universités, mais le lieu où la culture est véhiculée le plus abondamment, c'est surtout sur les masses médias et surtout sur le réseau, les réseaux sociaux. Si l'évangile du Christ et le christianisme y sont absents, alors nous nous enterrons nous-mêmes. Si le christianisme n'est pas populaire au sens qu'il est connu, accueilli dans la masse, alors il pèse sur nous un grave danger. C'est ce que nous ne voulons pas. Alors, Augustin nous a conduit à ce débat que nous allons poursuivre la prochaine fois. Notre thème d'étude va se concentrer surtout sur la cité de Dieu d'Augustin. Et nous aurons besoin, je crois, d'une bonne émission pour parler encore de l'Église d'après saint Augustin. Chers auditeurs de Radio Maria France, j'ai été très heureux de vous avoir parlé, d'avoir été avec vous depuis les Sables de l'Aune. Prions les uns pour les autres que par l'intercession de saint Augustin, l'Église rayonne et s'établisse dans nos cœurs, dans nos maisons et dans nos cités. Je vous dis à bientôt, au mois prochain, avec saint Augustin et l'Église.
Avec saint Augustin, l'Église et la cité de Dieu, nous avez-vous dit, Père Antoine Waoui, un grand merci. Rendez-vous donc le mois prochain. Chers auditeurs, c'était notre émission L'Église avec le Père Antoine Waoui. Il y était question de l'Église d'après saint Augustin. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.